Content de parler de baseball avec Marc Griffin. Salut Marc.
Hey, salut Marc,
ça va?
Salut les gars.
Hey Marc, hier, les Blue Jays de Toronto en action contre les Rockies du Colorado. Tout le monde peut se dire, ah, ok, une quatrième victoire facile pour les Jays, ça part bien. Non, c'était pas exactement ce scénario-là. Non seulement les Jays ont perdu, mais ils ont perdu les services de leur lanceur partant, Cody Ponce. J'ai trouvé ça très triste comme scène, Marc.
Oui, effectivement. C'est pas. On a vu que c'est peut-être pas le meilleur lanceur autour de son monticule dans ses déplacements, mais tu veux pas voir des images comme ça d'un gars qui. Écoute, il était vraiment, vraiment excité de ce premier départ-là. C'est une nouvelle aventure pour lui. Il veut prouver qu'il appartient au baseball majeur. Puis là, ben, tu t'enferges un peu dans tes crampons. Puis. Écoute, on ne connaît pas encore l'ampleur des dommages au genou, mais c'est sûr que tu regardes en début de saison, les gens disaient « Ouais, mais il me semble qu'il y en a pas mal de lanceurs partants. » Puis là, soudainement, après quatre matchs, il en manque des lanceurs partants. Alors, ça change vite des fois. La profondeur à cette position-là, là, tu n'en auras jamais assez de lanceurs partants dans ton organisation.
Ouais, parce que là, on parle de Bieber, Yes Savage, Berrios et même Yimi Garcia qui sont sur la touche. À ça, on peut racheter Cody Ponce. Et là, il va falloir se fier sur, en tout respect, là, mais des vieux bras comme Scherzer et Gausman. Ils en ont encore à donner, mais faut pas trop presser le citron parce que ça sera pas mieux tantôt. Là.
Ben, écoute. Tu sais, il y a quand même une lueur d'espoir de voir Yes Savage revenir quand même d'ici peut-être les deux prochaines semaines. Les gars vont revenir au jeu. Là. À un moment donné, ils vont revenir au jeu. Là, tu tombes dans un... Sur 162 matchs, il y a souvent des fenêtres, malheureusement, dans une saison où là, tu es pris un petit peu. Tu as une coupe de blessés, ça va moins bien. Ça donne que là, c'est tout de suite du côté des Jays. Tu as gagné tes trois premiers matchs. C'est quand même encourageant de voir ce que Gausman a fait, entre autres choses, ce que Dylan Cease a fait, ce que Lauer a fait. Donc, tu sais, je veux dire, il faut pas que tu te décourages. Pas après quatre matchs puis dire, ben là, on est vraiment déjà dans le trou. Il y a quand même une couple de jeunes gars, jeunes bras dans le niveau 3 qui peut te faire un ou deux départs. Je sais que c'est pas l'idéal dans une équipe qui veut remporter le titre de la division. Mais c'est là que tu testes la profondeur. Puis là, tu y vas. Puis t'en as une couple. Tu sais, t'as des Mako, t'as des Estrada, t'as des gars qui ont des bras, là. Je dis pas que c'est des gars qui vont venir lancer 7 manches puis pas donner de points dans leur départ. Mais t'en as quand même des bras dans l'organisation. Fait que là, t'essaies dans les deux prochaines semaines. Peut-être que c'est quoi? 3 départs d'essayer de couvrir cette absence-là. Mais c'est sûr que dans ce cas-là, tu souhaites qu'un Scherzer soit à la hauteur. On a vu que Verlander, hier, dans son premier match avec les Tigers, ça a été coup-ci, coup-ça, mais écoute, de ce qu'on a vu quand même de Scherzer au camp d'entraînement, il y a de quoi quand même être optimiste là, pour certainement pour ses premiers départs.
Ah ouais, puis tu as mentionné Gausman, Lauer et Dylan Cease, 50 retraits au bâton, notamment pour les partants, mais aussi pour le reste de l'équipe. C'est du stock, honnêtement, c'était très bien parti cette saison-là. Moi, par contre, je veux t'amener sur un autre sujet, celui de Jeff Hoffman. Il a donné le gros circuit en série mondiale, tout le monde s'en souvient, puis je pense que ça va le suivre pour le restant de ses jours, Jeff Hoffman, malheureusement, c'est la réalité. Encore une fois, au début de saison, contre les A's d'Oakland, donne un circuit égalisateur qui fait en sorte que les A's créent l'égalité. Avec un gars comme Tyler Rogers, qui a pas l'air touchable avec sa balle sous-marine, est-ce que Jeff Hoffman est en danger de perdre son poste?
Pas encore. Je pense que c'est quand même ton gars. Puis moi, ce que j'ai aimé d'Hoffman, c'est qu'on l'a vu lancer à 98. On n'a pas vu ça l'année passée. Là. Fait que, regarde, c'est sûr que c'est un lancé encore une fois, qui a mal placé, puis que ça crée évidemment le coup de circuit, ça crée l'égalité. Heureusement, les Jays sont revenus de l'arrière pour l'emporter. Mais écoute, tu regardes la formation, comment elle est bâtie. C'est sûr que Rogers... que son expérience en fin de match aussi, absolument. Mais ça donne quand même un bon duo. Ça t'empêche pas de temps en temps de reposer Hoffman dépendamment, mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il faut que ce soit ton homme de confiance. Il faut que tu le mettes dans les situations. En fait, c'est sûr qu'il faut qu'il performe, c'est clair. Mais si tu veux aller loin, tu as besoin de le mettre en confiance. Tu peux pas juste dire, OK, ben là, il a donné un circuit à sa première sortie, puis on s'en va tout de suite, là, tu t'en vas en 7e manche. Tu sais, ça marche pas comme ça. Il faut quand même lui donner la chance de se faire valoir. Je sais que les gens sont impatients, là, mais il en reste 158 games. Là. Alors, faut que tu penses à ça. Faut que tu penses que de mettre tes joueurs mentalement dans la meilleure situation possible. Puis là, ben, dans le cas d'Hoffman, rembarque-le. Puis peut-être qu'il va protéger les 10 prochains sans donner de coup de circuit. Puis là, ben, oups, t'es reparti sur une bonne pente. Alors, C'est sûr que le passé va l'hanter, mais les cartouches que tu as actuellement, c'est ça. Tu as l'option, effectivement, de Rodgers. Mais là, de faire le switch tout de suite après une semaine de la saison,
je me suis un peu tôt. Là. Je me suis peut-être mal exprimé. Là, je parlais pas dans le moment présent, là, mais plus si c'était une possibilité à venir dans les prochaines semaines.
C'est clair. Parce que, encore une fois, là, c'est une saison où tu veux gagner. Là. C'est pas juste on essaie de bien jouer, de se positionner. Tu veux gagner le titre de la division. Tu veux battre les Yankees, tu veux battre les Red Sox. Alors, c'est sûr que tu pourras pas être hyper patient dans tout ça. Mais il faut quand même que tu donnes la chance de faire ses affaires. Puis, tu sais, en début de saison, les gars, même s'il y a eu des performances extraordinaires, 50 retraits sur des prises, tu l'as dit, il y a quand même une surutilisation des releveurs en début de saison parce que tes partants vont pas si loin que ça. C'est pas évident.
Exact. Puis là, tu viens de mentionner que tu veux gagner la division et tu devras faire ça sans Bo Bichette parce qu'évidemment, tout le monde le sait, il est rendu du côté des Mets de New York. Faut dire par contre que depuis le début de la saison, c'est pas comme si les Jays s'en ennuyaient ben, là. Bichette a été hué par les Mets. Bienvenue à New York, Bo.
Ben écoutez, tu sais, Bo a choisi, on va se le dire, là, Bo a choisi le cash.
Ouais.
Il y avait un contrat quasiment signé avec les Phillies, puis whoop, son agent l'a appelé, il y a une couple de millions de plus qui est à New York, on s'en va à New York. Écoute. Ça vient avec, là. Tu sais, je veux dire, personne ne va prendre Bo Bichette en pitié. Moi, c'est un gars que j'ai beaucoup apprécié. Il est allé à New York pour l'argent, c'était quand même assez évident. Mais là, il faut que tu subisses un peu le marché de New York. Alors, si ça va moins bien, c'est des choses qui arrivent. Alors, tu sais, ça affecte n'importe quel athlète, là. Tu sais, je l'ai vu en entrevue, puis je me serais attendu qu'il me eût un petit peu avant, parce que je vois vraiment pas bien.
Faisait des blagues.
C'est tough, les gars. C'est tough de te faire huer. Tu sais, tu veux faire une bonne première impression. Puis pas probablement que c'est ça qu'il a fait. Hein. Il s'en est mis pas mal sur les épaules pour impressionner. Puis c'est tout l'inverse qui s'est produit. Parce qu'il y avait eu un bon camp d'entraînement, Bo Bichette, là. Statistique au camp d'entraînement était très, très, très honnête. Mais regarde, ça vient avec. Puis ça vient avec. Puis écoute, ce que ça aurait été Philadelphie ou New York, ils vont te le dire si ça va pas bien. Ils vont te le dire assez rapidement. C'est à lui de rebondir. Puis, soyons pas inquiets, là. Bichette va finir par frapper, là. C'est sûr que c'est un début de saison non souhaitable, mais je pense pas que dans deux mois, on va se dire que Bichette frappe 214 avec 500 retraits sur des prises. Là. Le gars, c'est un frappeur. Il va s'adapter.
Ouais, puis au final, je veux dire, ça, c'est toujours le classique, là. Mais si on prenait quatre matchs du mois de juillet et on les analysait comme on analyse les quatre matchs du début de la saison, on en arriverait à des constats complètement différents. Ben oui. Tout le monde traverse des mauvaises passes, puis malheureusement pour lui, sa mauvaise passe, c'est en début de saison. Un peu comme Cal Raleigh. Hier, il a marqué, il a frappé le gros coup sûr là, qui a permis aux Mariners de gagner le match, mais avant ça, là, pour Cal Raleigh, c'était 2 en 15 avec 10 retraits au bâton. Là.
Mais tu sais, t'as de la pression, t'arrives. Là, puis l'année passée, t'en as frappé 60.
C'est sûr.
Le mec se met de la pression énormément. C'est peux-tu refaire ça?
Exact.
C'est une saison qui est hors norme. Puis oui, c'est un bon frappeur et tout ça. Puis c'est un frappeur ambidex, on comprend tout ça. Mais 60 circuits, c'est du stock. Là. Puis là, t'en frappes pas. C'est comme un marqueur de but qui marque pas en début de saison. Là. À un moment donné, faut que tu marques. Chaque game, tu te mets de la pression. C'est la même chose pour Cal Raleigh. Là.
Ben absolument, puis honnêtement, tu peux pas lui demander de répéter ça. Tu l'as dit, Gilbert, c'est une saison de rêve. C'est une saison de rêve. Hey, s'il en frappe 40, c'est une pas pire saison?
Ben c'est énorme.
C'est énorme. Alors, c'est 20 de moins, mais ça va être bon quand même. Là. Puis moi, ce que j'ai aimé de ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a placé Cal Raleigh dans une situation pour faire gagner l'équipe. Il réussit son coup sûr. Peut-être que c'est juste ça que ça y prenait. Là. Tu comprends? Peut-être que là, il part là, sur une lancée, il vient de prendre confiance, vient de donner la victoire à son équipe contre les Yankees. Ça, je trouve que c'est bien gérer son équipe. C'est de trouver une solution. C'est comme parfois, le gars est dans un slump, il a un compte de 3-0. Hey, donne-y le feu vert. Tu sais, fais-le sortir de son slump ou de son passage à vide. Fait que tu sais, c'est des petites décisions des fois comme ça qui, oups, ramènent un peu de confiance au gars, parce que tu le dis, le nombre de retraits sur des prises s'accumulait là, pour Cal Raleigh, qui n'avait pas connu une grande classique mondiale, faut-il le dire aussi. Fait que ça se peut que lui aussi se met cette pression-là de dire, hey, moi, là, écoute, là, je suis rendu le joueur à surveiller pratiquement dans le baseball. Alors, t'sais, on sait pas parfois ce que les gars vivent à l'intérieur malgré des succès énormes sur le terrain. Alors, t'sais, juste un petit coup sûr comme ça hier pour Cal Raleigh, je suis pas surpris de le voir commencer à frapper à comme du monde.
Hey Marc, faut absolument que je te parle du système de balles et de prises automatisé dans le baseball majeur et principalement de CB Buckner. Je suis tombé hier sur une stats. Il est de loin l'arbitre qui s'est trompé le plus souvent cette année. 26 fois, pour être exact. Simi Buckner, ses décisions ont été renversées. Ça, c'est seulement les fois où est-ce qu'on a demandé contestation. Là. Parce que des fois, en première manche, les équipes vont se dire « Ah, c'est trop serré pour challenger, je le challenge pas. »
Ça, c'était intéressant. J'ai hâte d'entendre Marc là-dessus.
J'ai l'impression, Marc, que l'orgueil des arbitres va en prendre son rhume.
Ben, écoutez, dans le cas de Simi Buckner, j'aurais pu vous le dire avant la saison. Que c'est lui qui allait être le pire. Parce qu'il est vraiment ordinaire. Mais ceci étant dit, ils sont pas tous de même. Moi, je crois vraiment. Premièrement, les gars, moi, j'adore ça. J'adore, puis je vous dirais au point où je trouve que deux contestations se passaient. Mais ça sera pour un autre débat. Moi, je trouve que... En fait, je pense que les arbitres, moi, vont s'améliorer éventuellement. Tu sais, là, vraiment, on est... À un moment donné, là, la zone de prix, le tir bas que tu n'arrêtes pas d'appeler, puis il y a une contestation à chaque fois, puis à chaque fois, tu te fais renverser. À un moment donné, tu vas t'ajuster. Moi, je pense que les arbitres vont s'ajuster. C'est le fun de voir les équipes. Là, présentement, les Yankees, meilleure équipe. Ils sont 10 à 11. Les frappeurs là, des Yankees jusqu'ici ont été les meilleurs. Ça, c'est vraiment intéressant.
On les Reds ne se sont pas trompés non plus encore, au niveau frappeur. En tout cas, hier, j'écoutais le match, il était 6 en 6 à ce moment-là.
Alors, tu sais, là, c'est clair qu'on laisse le receveur. Tu sais, il y a eu seulement 5 contestations de la part des lanceurs depuis le début de la saison, ou à peu près, là. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que chaque équipe va avoir sa stratégie. Puis, comme Dan Wilson le dit, le gérant des Mariners, il disait, « Manny, on est en train de la prendre sur le tas de cette affaire-là. Comment on va jouer ça? » Parce que si vous faites comme Vlad dans un des matchs face à Oakland, en première manche, dans un compte de 2-1, tu demandes une contestation, puis t'as peur.
Exact.
Il t'en reste juste une. Mm-hmm. Là, t'es gêné, là. Tu sais, tu le sais que c'est une balle, mais t'as coup que la balle a touché le coin.
Ah ouais.
Surtout dans un compte de 2-1. T'sais, on en parlait hier, là. Les Red Sox en troisième manche, plus de contestation.
Ouais. Là, après ça donne
un pour le reste du match. Là.
Mais il va y avoir, Marc, aussi une portion de stratégie qui va s'installer. Il va sûrement y avoir des règlements à l'interne. T'as pas le droit de contester s'il y a personne sur ses sentiers en dedans de la cinquième manche. Ça va dépendre de ton statut. J'ai hâte de voir parce que ça va évoluer avec le temps. Mais moi, j'ai regardé le match Cincinnati-Boston en fin de semaine, le fameux match de Buckner, je l'écoutais en direct. Puis honnêtement, là, j'ai senti que l'orgueil, l'ego de l'arbitre est entré en ligne de compte. Il s'est fait challenger. Les Red Sox n'ont pas eu le gros bout du bâton. Et après ça, là, la zone des prises, elle a élargi. Au fur et à mesure que le match avançait, savait très bien qu'il ne se ferait pas challenger. Les Red Sox n'avaient rien dans la manche.
Puis absolument. Puis les gars, moi, je pense qu'il aussi faut ajouter, c'est l'aspect spectacle.
Oui.
Je parle de ce match-là, là. Lorsque Suarez était au bâton, là, on l'a tiré sur 3 prises 2 fois.
2 fois, oui.
2 fois, il conteste, puis 2 fois, il retourne. Tu sais, il retourne. Fait, moi, c'est la réaction de la foule que j'ai aimée.
C'était bon.
T'avais l'impression qu'on venait de frapper un double avec les buts remplis, tellement que ça criait.
Mais c'est alors, ça qui est le fun. Ça amène du drama à un sport. Tu sais, le baseball, je veux dire, c'est un sport. C'est pas les bordures de baseball. C'est pas le sport le plus palpitant au tout moment. Mais ça amène la foule dans le match. Puis c'est de la contestation. Moi, j'adore
Puis le lanceur des Red Sox est à ses débuts des majeurs. Il arrive, il retire 2 fois Suarez sur des prises, les 2 fois. Ah non, finalement, recommence une balle à la place.
Quel bon spectacle. Il l'a quand même retiré après, pareil.
Oui.
C'est pour ça que je dis, les gars, on va s'habituer. C'est un début de saison. L'échantillon n'est pas très élevé. Mais moi, je vous dis, là, j'en mettrai une autre contestation juste parce que, tu sais, comme les Red Sox ou Vlad en première, il y a des crampes au cerveau que vous allez me dire, les gars vont apprendre, je comprends, mais. Je les trouve importants. Oui, il y a un aspect stratégique, tu l'as dit, Anthony, dans le sens que les équipes vont trouver des solutions, des manières de faire. Puis, tu sais, est-ce que tu dis à une recrue, prends-en pas de contestation, on va le laisser aux vétérans. Il y a pas quelque chose, mais moi, j'aimerais ça monter à 3 éventuellement. Ouais. On verra ce que ça va donner. Mais chose certaine, c'est un succès. En tout cas, dans le premier week-end de la saison, c'est un succès. Puis combien de fois que j'ai entendu des puristes, des gars là, qui adorent l'ancienne façon de jouer, qui apprécient la zone de prise. Ça, c'est le plus gros message
qu'on exact. Hey, je suis plate, Marc, parce que j'aurais aimé ça de parler de plein d'autres choses. Le Chris DeLauter qui est en feu. Les Marlins qui sont un excellent début de saison. Murakami qui est en feu, lui aussi, avec les White Sox. On n'aura pas le choix de se reparler bientôt, Marc.
En tout cas, les jeunes sont vraiment impressionnants à ce début de saison-là, partout dans le baseball. C'est très rafraîchissant.
Mais c'est le fun. C'est le fun d'avoir un peu de sang neuf.
C'est de bonheur.
Ben oui, c'est le bonheur.
C'est un long marathon, puis tu gagnes pas la Série mondiale le 31 mars. Ça, c'est garanti.
Non, ça, c'est sûr. Salut, Marc, à bientôt.
Bonne journée.
Salut, Marc.
Bye bye.
Bye bye. On va aller à la pause de l'autre côté. Des matchs palpitants, en veux-tu, en veux-là dans la Ligue nationale? Gouders contre les Leafs, c'est toutes les répercussions.
Oui, c'est Gouders contre les Leafs, pas les Ducks. Gouders contre les Leafs.
Mais c'était vraiment ça.
C'était exactement ça.
Après ça, t'as eu premier match de Tortorella. Kadri contre son ancienne équipe. La course aux séries avec les Islanders et les Pingouins. Vraiment, hier, 100 points pour McLean Celebrini.
Incroyable.
Plein de sujets à jaser au retour.